Deutsche Welle, Économie et développement.
Le Togo, nouvel Eldorado des investisseurs. Le pays de plus de 7 millions d'habitants compte bien développer ses infrastructures pour attirer les entreprises. On se rend à Lomé dans un instant. Et puis on parlera aussi de sécurité alimentaire en Afrique et en particulier en Zambie, à l'occasion du Forum de Davos, mais aussi du Salon de l'agriculture de Berlin. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Costman au micro. Bienvenue à toutes et à tous. Le Togo affiche ses ambitions, devenir une plaque tournante de l'économie régionale et attirer les investisseurs sur les bords du golfe de Guinée, développer les principaux secteurs, notamment portuaires, aériens et bancaires. Comment Lomé tire-t-elle son épingle du jeu? Réponse avec notre correspondant au Togo, Noël Tadénion.
Nous sommes au port de Lomé. Des rangées de grues surplombent des conteneurs empilés. L'un des plus profonds ports de la sous-région, avec ses 15 mètres de profondeur, sert de hub de transbordement pour les plus grands navires du monde. Il s'est d'ailleurs doté récemment d'un troisième quai. Le contre-amiral Fogan Adégnon, directeur général du port de Lomé.
Le troisième quai, c'est 450 mètres de linéaire et destiné à des navires de nouvelle génération. Et cela a été précédé aussi par le dragage du bassin jusqu'à 15 mètres de profondeur.
Considéré comme l'un des poumons de l'économie togolaise, le port de Lomé fait partie intégrante du plan de développement du Togo. Il a vu sa fréquentation bondir de 48,7% au premier semestre de 2015 avec 613 navires contre 490 pour la même période de 2014. Le volume des conteneurs traités est en croissance de 161% et l'activité de transbordement en hausse de 444%. Et au-delà des infrastructures, le port de Lomé étend son développement aux services offerts à la clientèle, notamment avec la mise en service d'un guichet unique pour permettre aux opérateurs économiques de gagner du temps.
Le gain de temps, c'est de l'économie. Le guichet unique nous permet de faire des facilités, les démarches nécessaires pour accélérer l'enlèvement des marchandises.
Nous passons d'un hub à un autre. Le développement économique du Togo ne se repose pas que sur le port, mais aussi sur des activités aéroportuaires. À l'aéroport de Lomé, les travaux d'une nouvelle aérogare sont achevés. L'objectif est de désengorger l'ancienne installation devenue trop exiguë pour gérer le flux occasionné par la croissance rapide de la compagnie aérienne Askai. Cette compagnie panafricaine basée au Togo a fait de Lomé sa plateforme source d'emploi pour les jeunes. Créée en 2010 et soutenue techniquement par Ethiopian Airlines, Askai transporte près de 10 000 passagers par semaine autour de la région et cherche à se développer. Enoch Tefera, le directeur général de la compagnie Askai.
Un hub aérien est stratégique pour un pays. Ça permet d'attirer des investisseurs, ça permet d'accroître les flux à la fois du commerce et du tourisme. Et ça permet aussi de faire en sorte que l'intégration régionale est possible.
La compagnie Askai est l'œuvre de Gervais Koffi Diondo. Âgé aujourd'hui de plus de 81 ans, il est aussi le cofondateur de la banque panafricaine Ecobank dont le siège est à Lomé. Pour lui, le Togo mérite d'abriter ses différentes institutions, notamment des institutions bancaires qui concourent à son développement.
Le Togo est un pays accueillant. C'est un pays qu'on appelait à un moment donné la Suisse d'Afrique. Et j'ai senti aussi auprès des autorités, cette volonté d'aider tous ceux qui veulent apporter quelque chose.
Plusieurs banques et institutions financières ont leur siège au Togo. On peut citer le groupe Aura Bank, la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO, la BIDC. On note également la présence sur le marché togolais de plus de 13 différentes banques africaines ou internationales, dont la marocaine Atijari Wafa Bank ou la française Société Générale.
Voilà un changement notable. Donc, Lomé est considéré aujourd'hui comme une place financière africaine. Ce n'est pas moindre du tout.
Pour l'économiste togolais Stéphane Akaya, le Togo aujourd'hui est dans une zone de stabilité relative, propice aux affaires. Une place est faite aux investissements intéressants.
Nous sentons quand même que le Togo a amorcé un nouveau pan de son développement. Reste maintenant à consolider un certain nombre d'acquis que nous avons pu avoir sur la période 2006-2014. Parce que sur la période 2006-2014, nous avons un taux moyen de croissance qui tourne autour de 4,4%. Et nous avons enregistré plus de 5,5% en 2014 en termes de croissance. Et nous pensons quand même que le Togo peut aujourd'hui constituer un hub régional, c'est-à-dire peut constituer un pan réel, c'est-à-dire un levier sur lequel l'Afrique de l'Ouest peut s'appuyer pour vraiment jouer sa partition dans la géopolitique internationale.
Le Togo se rêve en Singapour africain, mais encore faut-il que ses réussites économiques profitent au maximum de personnes dans un pays classé 162e sur 188, selon le dernier indice de développement humain. La présidence togolaise, qui s'appuie sur les chiffres de l'INSID, Institut national de la statistique, se félicite des efforts réalisés, mais pointe aussi les défis à relever. Le taux de pauvreté est passé de 58% en 2011 à 55% en 2015. Noël Tadegno à Lomé pour la Deutsche Welle.
Et n'oubliez pas, on reparle économie et développement en avant-première dans l'Afrique qui bouge. C'est dans Info Matin, le mardi, sur la Deutsche Welle. La semaine dernière, au Forum économique mondial de Davos, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme. Elle va permettre de relier de petits producteurs à de nouveaux marchés. Car selon la directrice du PAM, Herta Rinkouzin, plus de la moitié des 800 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde sont des petits agriculteurs familiaux. Un protocole a donc été signé avec de grandes banques, des multinationales des secteur des semences et des engrais chimiques comme l'allemand Bayer, le suisse Syngenta ou le norvégien Yara. L'objectif est d'aider 1 million d'agriculteurs dans le monde et ce dans 25 pays en passant des contrats avant les plantations, en leur permettant l'accès à des engrais mais aussi en les formant. Des expérimentations ont déjà eu lieu l'an dernier en Tanzanie mais aussi au Rwanda où selon le PAM, 20 000 agriculteurs ont obtenu des contrats pour vendre en tout 8 000 tonnes de maïs à un acheteur local. En Zambie, 3 acheteurs régionaux se sont engagés avec le PAM à acheter 17 000 tonnes de culture auprès de petits agriculteurs. Je parlais à l'instant de la Zambie. Eh bien, son ministre de l'Agriculture, Given Lubinda, était lui présent à Berlin la semaine dernière lors du Salon de l'Agriculture que l'on appelle ici Grüne Woche ou Semaine Verte. Et ce ministre a notamment présenté la situation bien particulière de son pays.
Sur 75 millions d'hectares de terre, 58% sont des terres très fertiles, et cela dans un pays de 15 millions d'habitants, ce qui veut dire que chaque Zambien a accès à 5 hectares de terre, et ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde.
Autre avantage, la Zambie a accès à suffisamment d'eau, 160 milliards de litres par an, soit 40% des réserves pour l'Afrique australe. Il y a donc du potentiel pour l'irrigation des champs, mais aussi pour l'élevage de poissons, selon le ministre. Il incite les investisseurs à venir en Zambie, pays entouré par la RDC, l'Angola, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie et le Malawi.
Quand vous investissez en Zambie, quand vous y faites de la croissance, vous ne le faites pas seulement pour les Zambiens, mais aussi pour les 400 millions d'habitants qui vivent autour.
Inciter les investisseurs à venir créer des emplois en Zambie peut être une bonne idée, sauf que les dérives sont toujours nombreuses, accaparement des terres, expropriation, contrats inégalitaires entre des grosses entreprises et des petits propriétaires, ou encore le risque de corruption. Selon le site landmatrix.org, 70% des 56 millions d'hectares de terres vendues dans le monde depuis l'an 2000 se trouvent en Afrique. Dans le top 10 des pays les plus convoités par ces achats dans le monde, on trouve le Soudan du Sud, le Soudan, la RDC, le Mozambique et le Congo. Et ceux qui achètent le plus de terres sont les États-Unis, la Malaisie, Singapour ou encore les Émirats arabes, toujours selon ce site. Le ministre fédéral allemand de l'agriculture, Christian Schmidt, était lui aussi présent à ce salon à Berlin et il s'est dit conscient de ce problème.
La vente des terres est souvent ce qu'il y a de plus facile, mais elle ne conduit pas à la gestion des terres. Notre objectif politique doit être de renforcer les structures agricoles existantes pour qu'elles se maintiennent dans la chaîne de production. Les petits exploitants ont aussi besoin d'un minimum de compétences techniques, par exemple dans la mécanisation.
Reste qu'accéder à du matériel, à des outils, à des machines reste difficile pour certains producteurs. Les ministres allemands et zambiens ont plaidé pour la création de coopératives d'agriculteurs pour qu'ils mettent leurs ressources en commun. Ils seront aussi plus forts à plusieurs quand il s'agira de vendre leurs récoltes. Merci à Sabine Kinkartz pour les interviews. Et on approche de la fin de ce numéro. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, c'est simple. Allez sur notre site dw.com/français, puis dans la rubrique Médiathèque. Un grand merci pour votre écoute. Tchuss. Yeah, yeah. Yeah, yeah, tunaheshimu.